France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
La grève des médecins prend fin demain, un mouvement inédit par son ampleur, un mouvement démarré le 5 janvier dernier qui nous parle à nous, bien sûr, qui sommes patients, nos médecins généralistes, ceux qui, quand on a de la chance, nous connaissent bien, nous suivent depuis longtemps. Elle nous concerne aussi parce que les spécialistes nous envoyons tous, pas forcément d'ailleurs parce que nous sommes gravement malades, un ou une radiologue parce qu'on est tombé de vélo, le gynéco une fois par an, l'ophtalmo quand on porte des lunettes. Les médecins refusent qu'on réduise leur mouvement à un mouvement catégoriel, ils nous embarquent donc dedans parce que selon eux, on parle de remise en cause de leur pratique, d'un coup de pied dans l'institution qu'est la médecine libérale. Mais est-ce que la médecine libérale peut répondre aux besoins d'aujourd'hui? Est-elle donc en danger? Ce sera aussi ça notre discussion au travers donc de ce qui a mis les médecins en colère, le vote du PLFSS, le budget de la Sécu, a abouti à plusieurs mesures interprétées comme une manière non seulement de les surveiller mais aussi de les contrôler sur les arrêts maladie. Nous y viendrons forcément, pas plus d'un mois d'arrêt au premier rendez-vous. On s'interrogera une fois de plus, abus ou pas abus, on se demandera si un contrôle est possible, souhaitable, hors de question, sur la fixation des tarifs, par exemple, dans certains cas, là aussi. Les spécialistes travaillent beaucoup en secteur 2, pas tous, aux tarifs au-dessus donc du remboursement de la Sécu. Est-ce qu'on a le droit d'imaginer un plafond? Est-ce que là aussi, c'est hors de question? Si on ne le fait pas, est-ce qu'on va se retrouver avec une médecine de riches, une médecine de pauvres? Mais au fond, est-ce que ça n'est pas déjà le cas? L'autre serpent de mer, c'est la liberté d'installation qui plane au-dessus des jeunes médecins comme une épée de Damoclès. C'est ça depuis un moment. Est-ce que le législateur s'attarde sur des dérives qui sont marginales en évitant le vrai problème? Les dépenses de santé ne vont pas baisser, nous vivons de plus en plus longtemps, nous travaillons aussi de plus en plus longtemps. Faudrait-il se résoudre à augmenter les recettes, donc les cotisations? La médecine libérale, au moment où on se parle, est-elle en danger? C'est le téléphone sonne, les amis, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Stéphanie, c'est vous la première, vous êtes la bienvenue, bonsoir.
Bah, bonsoir.
On vous écoute.
Alors, bah, je m'appelle Stéphanie et je suis rhumatologue, mais je ne suis pas ministre de la Santé. En fait, moi, je suis médecin libéral, rhumatologue secteur 1. Je vous appelle parce que j'en ai marre d'entendre sur les médias que les médecins libéraux sont des nantis et qu'ils ont une clientèle et non une patientèle. Moi, je suis captive du secteur 1 depuis 25 ans, c'est-à-dire que je suis sans dépassement d'honoraires. Le système est fait en sorte qu'on ne peut pas changer de secteur. Et après 10 ans d'études, ma consultation de référence, elle est à 31,50 €. Je fais partie des privilégiés, c'est vrai, mais je le mérite. Chaque année, je travaille un peu plus pour rattraper l'inflation, pour payer mon loyer, ma secrétaire, mon logiciel, mon échographe, ça vaut 30 000 € un échographe. J'enchaîne les soins à des patients de plus en plus âgés, des patients polypathologiques, à qui je dois expliquer que tel médicament n'est pas disponible car il est en rupture, que tel médicament n'est pas remboursé parce que c'est de la prévention. Je dois leur expliquer que le délai de rendez-vous qui est de 3 mois pour un nouveau patient, c'est pas mal parce qu'en fait, on n'est plus que 1400 rhumatologues sur le territoire français en médecine libérale. Je dois lire des pages et des pages d'examens inutiles qui ont été prescrits par leur médecin qui a fait une consultation à 30 € mais qui n'a pas le temps de les écouter, ni de les examiner, ni de réfléchir pour faire des examens pertinents. Et puis ensuite, parmi tout ce que j'ai fait pendant cette consultation qui dure 20 minutes, en moyenne, mais parfois beaucoup plus, eh ben, je dois choisir parmi les actes intellectuels et techniques que j'ai enchaînés, lesquels seront gratuits, parce que je ne peux pas facturer plus d'un acte ou deux. Stéphanie, le deuxième à 50%.
Pardon, oui. J'entends ce que vous nous dites et j'ai entendu la liste de ce que vous faites. Mais d'abord, moi, je voudrais comprendre si, au fond, en effet, ce qu'il faut résumer, c'est que ce qui vous sépare, en gros, de la ministre de la Santé, c'est haro sur les nantis. Est-ce que c'est comme ça que vous le percevez, vous?
La ministre de la Santé...
Parce que je veux dire, quand vous dites que vous méritez, vous travaillez beaucoup, vous le méritez, moi je suis sûre qu'il y a des profs qui nous écoutent et qui méritent aussi, il y a des ingénieurs qui nous écoutent et qui méritent aussi, c'est ce que je voulais dire.
Sûr. Donc du coup, je suis bien d'accord.
Du coup, ma question, c'est est-ce que vous avez le sentiment que la vraie raison du bras de fer, au fond, c'est un gouvernement qui vous dit « vous êtes des nantis et vous devrez payer ».
Alors, c'est pas la seule raison, mais il faut quand même savoir que notre ministre, elle méprise la médecine libérale. Elle n'a pas un mot pour la médecine libérale. Nous, on sert à rien, vous avez bien vu. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi les hôpitaux débordent, puisqu'il n'y a que 13% de grévistes en médecine libérale.
On a entendu, Stéphanie, on entend l'ambiance aussi qui doit être celle des négociations lorsque vous verrez peut-être votre ministre à un moment. Vous l'avez vu, non, votre ministre? On va y revenir dans un petit instant. Je vous présente d'abord les gens qui sont autour de la table. Il y a d'abord Nathalie Coutinet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste de la santé, enseignante chercheuse à l'université Sorbonne, Paris-Niort. Il y a Luc Dickenel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes médecin généraliste, vous êtes président du CSMF généraliste, branche généraliste de la Confédération des syndicats médicaux français. Et il y a Lamine Garbi, bonsoir. Vous êtes prédération de la Fédération de l'hospitalisation privée. Je reviens sur ce que nous dit Stéphanie, Luc Dickenel, puisque vous avez fini par la rencontrer. C'est dans cette ambiance-là que ça négocie avec la ministre de la Santé ou pas?
Non, on l'a rencontré ce matin et je crois que le mouvement qui s'est fait en plus de ça, qui est exceptionnel, hein, entre du 5 et qui se termine demain, dans le cadre d'une intersyndicale qui a réuni tous les syndicats, plus les jeunes et tout, c'est du jamais vu.
Mais
fermeture
pardon...
des cabinets, grève des gardes, et donc ce matin...
Mais pardon, est-ce que c'est ça l'ambiance en fait? Et est-ce que c'est ça ce qui vous sépare? C'est, on va vous faire payer, vous les nantis, parce que c'est ça que j'entends dans la remarque de Stéphanie.
Non, il est vrai qu'on a eu un PLFSS qui était totalement anti-médecine libérale, mais pour plein de raisons, et pas seulement pour des raisons financières. On prend l'exemple et d'autres projets de loi qui sont en attente. Celui sur les fraudes sociales, où on nous classe juste après les trafiquants de drogue qui font des investissements avec du blanchiment d'argent, et on poursuit les médecins généralistes parce qu'ils prescriraient trop d'arrêts de travail. Je veux dire, c'est un comble. Je suis médecin généraliste. Avec une patientèle qui travaille depuis 20, 30, 40 ans. Je fais pas mal d'arrêts de travail, mais parce que j'ai des gens qui sont en maladie professionnelle. J'en ai qui sont arrêtés depuis 18 mois. Et me voir poursuivi pour ça, me voir face à un patient, il y a de plus en plus de souffrances dans les entreprises, de souffrances psychiques dans les entreprises, dans certaines entreprises d'ailleurs. Et que finalement, ce soit nous qui soyons montrés du doigt. Moi, j'ai pas envie d'être confronté à des patients où j'estime que je dois pouvoir les arrêter. Un état anxio-dépressif, c'est minimum un mois et souvent qu'on va renouveler. Et que finalement, j'ai hésité à faire cet arrêt de travail qui, pour moi, est nécessaire pour le patient, tout simplement parce que j'ai été poursuivi par la caisse. Ça, c'est insupportable. Le mot d'ordre, qui est peut-être un peu vulgaire, qu'on a entendu lors de la manifestation de samedi, c'est arrêter d'emmerder les médecins libéraux. C'est ça, c'est plus possible. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit en 10 ans, 18% de médecins salariés en plus, 12,5% de médecins libéraux en moins. Et aujourd'hui, savoir que sur 100 médecins généralistes, il n'y en a plus que 40 qui sont médecins traitants. C'est-à-dire qu'il y a des métiers qui n'intéressent plus.
On va venir à ça avec vous, Nathalie Coutinet, dans un instant. Mais je voudrais d'abord me retourner vers vous, Lamine Garbi. Est-ce que c'est le même genre de constat que vous faites? Parce que j'entends dans la question de Stéphanie, j'entends dans la réponse de Luc Dickenel, j'entends effectivement arrêter d'emmerder les médecins. Est-ce que c'est comme ça aussi qu'on le perçoit de votre côté?
Oui, il faut prendre soin des soignants pour qu'ils nous soignent. Mais alors, il y a deux mouvements. Il y a le mouvement de la médecine générale, c'était la semaine dernière. Et cette semaine, c'est le mouvement des plateaux technique lourd, et le mouvement, pardon, ne s'arrête pas demain.
Oui, j'ai cru comprendre.
Ça continue, ouais. Ça continue avec la grève de la permanence des soins, c'est-à-dire l'appel aux urgences de nuit et de week-end.
J'ai cru comprendre.
Le mal est profond.
Illimité d'ailleurs, de ce
illimité,
que j'ai
cru lire. Illimité, oui. Le mal est profond et nous sommes associés à la médecine libérale parce que dans les cliniques hôpitaux privés, on prend quand même en charge 9 millions de patients, 35% de l'activité est réalisée par le privé, c'est réalisé avec la médecine libérale. Donc si la médecine libérale va mal, nous allons mal. 50% des cliniques sont en déficit, il faut le dire. Et surtout, nous prenons en charge 3 millions de patients en urgence. Et on voit aujourd'hui la difficulté que les hôpitaux publics ont pour faire face à cette recrudescence de patients. Même s'il n'y a que 15% des cabinets qui sont fermés, il y a un afflux massif de patients à l'hôpital. Et c'est vrai que nous avons réquisitionné pour pouvoir pallier, je dirais, à cette insuffisance.
On finit le tour de table avant de retourner au standard, parce qu'il y a vraiment du monde, Nathalie Coutinet.
C'est un sujet qui intéresse.
Absolument. Est-ce que tout le monde a un médecin? Mais vous savez, il y a aussi des choses qui ne vont pas vous faire plaisir, et je vous les lirai aussi quand même, ne croyez pas. Nathalie Coutinet, est-ce qu'on fait peser sur le dos des médecins libéraux un système effectivement qui a du mal à fonctionner aujourd'hui, surtout des dépenses de santé au fond qui ont beaucoup augmenté d'ailleurs ces dernières années, et on le met sur le dos de la médecine libérale? Est-ce qu'on le résume un peu à ça ou pas?
Alors non, il faut effectivement, les dépenses de santé augmentent, c'est normal, elles continueront d'augmenter parce que la population vieillit, parce que les techniques médicales sont plus coûteuses.
Oui, mais plus 47% depuis 2017, la population ne vieillit pas depuis 2017. Donc est-ce qu'il s'est passé un truc là ou pas?
Y a aussi les techniques qui sont plus coûteuses, hein. Les IRM, les médicaments sont plus chers, les maladies chroniques se développent, donc il y a quand même beaucoup de raisons qui font que le coût de la médecine augmente et que donc les dépenses de santé augmentent. Cette maîtrise des dépenses de santé, on l'a beaucoup fait porter par l'hôpital, hein, pendant longtemps, et aujourd'hui les hôpitaux sont complètement à l'os. On ne peut plus finalement réduire les budgets des hôpitaux parce qu'ils sont déjà quasiment en impossibilité de fonctionner et les grèves d'avant Covid de 2018-2019 l'ont bien montré. Et aujourd'hui, effectivement, comme le gouvernement veut continuer à faire des économies, bah finalement, ils vont contrôler mieux les médecins libéraux. Mais il faut rappeler quand même que les médecins libéraux sont payés par la sécurité sociale, que le payeur in fine, hein, même si d'abord il y a le patient, mais il y a quand même la sécurité sociale qui rembourse une grosse partie des soins et les complémentaires, et bien que le payeur veuille contrôler un certain nombre de dépenses ou certain nombre d'actes, ça peut être compréhensible. Après, effectivement, ça dépend comment c'est fait, et notamment une des grandes attaques sur les dépassements d'honoraires, et c'est ce que nous a dit aussi Stéphanie, comme la sécurité sociale, les gouvernements successifs n'ont pas revalorisé les actes, les consultations, notamment pour les spécialistes, et ben un moyen pour pas le faire, c'est de dire, ben, vous allez faire des dépassements d'honoraires, comme ça vous serez mieux rémunéré, mais ça génère des inégalités d'accès aux soins, etc. Donc effectivement, on a toute une réflexion à mener sur la façon dont les médecins sont rémunérés et la santé est organisée.
Moi, je voudrais qu'on y viendra d'ailleurs, mais je voudrais savoir pourquoi il y a une totale allergie au contrôle, en fait. Est-ce que c'est non à 100%? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à les tirer? Après tout, est-ce que c'est si grave que ça de contrôler notamment les arrêts maladie? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y aura quelqu'un derrière vous tous les jours? Est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu qui dirait, par exemple, dans une zone où il y a beaucoup plus d'arrêts maladie, se demander pourquoi ce médecin-là en a beaucoup plus que d'autres? Et puis si la réponse c'est, mais il vit dans une cité ouvrière, ils ont tous le dos cassé, la question est finie. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi est-ce qu'il doit y avoir une allergie total au contrôle, après tout.
C'est pas une allergie
au
contrôle.
On est tous contrôlés dans nos métiers respectifs.
Oui, non, mais c'est pas une allergie au contrôle, très clairement, mais c'est la façon dont ils sont faits. C'est ce qu'on appelle le délit statistique. Là, depuis le mois de juillet, il y a beaucoup de médecins généralistes qui sont contrôlés pour les arrêts de maladie. On les accompagne. Bon nombre de ces médecins, d'ailleurs, ont un nombre d'arrêts bien inférieur. On les compare par rapport à la moyenne de leur territoire. Un nombre d'arrêts bien inférieur à la moyenne de territoire. Par contre, ils explosent leur nombre d'indemnités journalières parce qu'ils ont des arrêts très longs sur des maladies professionnelles, des arrêts de 18 mois, 2 ans. Et d'ailleurs, les contrôles ne sont plus faits par la Sécu. Normalement, tous ces patients-là, en arrêt de longue durée, ils doivent être contrôlés au bout de 6 mois. Mais il n'y a pratiquement plus de médecins conseils.
Alors voilà.
Donc, c'est...
Les médecins conseils, c'était les médecins de la Sécu, pour les gens qui nous écoutent, pour le dire un peu vite, mais c'était ça. C'était les
tout
médecins
à fait.
De la Sécu.
Il n'y a plus de contrôle et on a besoin d'être aidés aussi. Alors, il y a une expérimentation qui a été menée dans 3 départements qui doit normalement se développer. C'est SOS-IJ, c'est-à-dire que j'ai un problème pour demander qu'un patient puisse reprendre et me faire aider par la caisse. Bon, voilà, mais aujourd'hui, ces statistiques, très clairement, qui sortent sont totalement injustifiées. Et puis, c'est traumatisant. On le voit, c'est une loi sur les fraudes sociales. Nous sommes des fraudeurs. Je suis au-dessus de la moyenne de mon territoire et je suis un fraudeur.
Est-ce que c'est la même chose et le même raisonnement sur les tarifs, par exemple? Alors, il n'a pas été question de plafonner, de donner un maximum donc, à chaque tarif de médecin spécialiste, mais il a été question, effectivement, c'est ce que dit le PLFSS, de regarder ce qu'ils appellent les rentes, ce qui concerne évidemment pas tout le monde, certainement pas notre nouvelle amie rhumatologue qui nous a appelé tout à l'heure.
Oui, parce qu'elle est en secteur 1, et c'est vrai que, comme elle le dit, elle est bloquée depuis 25 ans, donc là, il y a une inégalité entre les médecins qui est complexe. Ce terme de rente est abominable. Je pense qu'il faut le bannir parce que ce ne sont pas les médecins qui fixent les cotations. Hein, c'est l'assurance maladie. Donc parler de rente alors que c'est l'assurance maladie qui fixe, je dirais, les rémunérations des médecins, est pour moi insupportable.
Donc ce n'est pas une réalité quand on pointe du doigt les rhumatologues, les radiologues...
Bien sûr qu'il y a des écarts de rémunération entre les spécialités. On sait bien que les pédiatres ont des rémunérations qui sont indécentes. On sait bien que les dermatologues qui sont, je dirais, non pas esthétiques, ont aussi des rémunérations qui sont indécentes. Les médecins généralistes aussi ont des rémunérations qui sont difficiles. Mais c'est pas eux qui fixent les rémunérations.
Les radiologues ou certains chirurgiens qui sont à plus de 400 000 euros de revenus par an ont aussi des rémunérations indécentes. Mais là, l'indécence.
Mais le mouvement ne part pas sur des problèmes de demande de rémunération complémentaire. Il part sur un mal-être de la profession. Si on ne l'entend pas, ce mal-être, c'est qu'on n'a rien compris. Parce que ce mal-être de la profession, si on prend pas soin des médecins qui nous soignent, déjà qu'on en a pas assez, on en manque, continuons à faire ça, et on va avoir des déserts médicaux majeurs.
Retournons au standard, s'il vous plaît. Voici Michel qui nous attend, il est à Besançon. Bonsoir Michel.
Oui, bonsoir Fabienne.
On vous écoute Michel.
Oui, bonsoir à vos intervenants également. Moi j'avais le sentiment jusqu'à présent que la médecine libérale c'était le patient qui pouvait choisir son médecin. Alors, je vais certainement choquer, mais j'ai de plus en plus l'impression que médecine libérale, ça veut dire c'est le docteur maintenant qui va choisir son patient. Ça se traduit par les déserts médicaux, où elle est le fait également que, moi je suis pas dans le secteur médical, mais j'ai quand même l'impression que on profite également de la pénurie de médecins pour pouvoir faire pression pour essayer de augmenter les marges. Alors juste une anecdote et une question derrière. Une anecdote, c'est moi je me suis fait opérer dans un hôpital. Je vais voir mon ophtalmo derrière et il me demande si j'ai ramené le compte rendu de réunion, le compte rendu d'opération. Et l'ophtalmo, je dis non, mais c'est dans mon dossier médical partagé. J'ai pas accès à mon dossier médical partagé. La même chose pour des vaccinations, etc. Ma question, elle porte là-dessus. Est-ce que le fait, par exemple, de demander aux médecins libéraux de remplir les dossiers médicaux partagés, est-ce que c'est une contrainte ou est-ce que c'est quelque chose qui permettrait de faciliter, en effet, le partage d'informations au niveau médical?
Merci, voilà. Michel, pour votre question. C'est intéressant, la question sur le dossier médical partagé, parce que c'était dedans et puis ça a disparu, en fait, Luc Duquesnel. Donc, vous n'en vouliez pas. Donc,
Non, ce n'est pas qu'on n'en voulait pas. C'est qu'aujourd'hui, très clairement, Michel a raison, le dossier médical partagé, le jour où il sera ergonomique et tout, c'est un plus, il y aura les informations du patient qui seront dedans. C'est quoi les sujets aujourd'hui ? Premièrement, ça concerne que les médecins libéraux. Moi, pour tous mes patients atteints de polypathologie, j'ai mis un volet médical de synthèse dans le DMP. Seulement, quand ces patients ils arrivent aux urgences de l'hôpital, dans les hôpitaux, ils ne peuvent pas les ouvrir. C'est quand même un comble. Première chose. Deuxième chose, c'est qu'on a des outils informatiques, des logiciels métiers. Il y a certains, un clic, ça, ou même ça part automatiquement. Il y a des logiciels métiers, on ne peut pas mettre des documents dans le DMP. Donc c'était ça le sujet. Mais donc on doit aller vers le DMP. Le problème, c'est que dans le PLFSS, c'était marqué quoi ? C'est-à-dire que si je ne mets pas les documents dans le DMP, j'ai 10 000 euros d'amende, jusqu'à 10 000 euros, et si je ne vais pas consulter quand je prescris un examen, une IRM cérébrale, si je ne vais pas regarder avant dans le DMP, j'ai encore 10 000 euros. Tout ça, c'est par an, ça fait 20 000 euros d'amende par an. Non mais c'est complètement surréaliste. Et je reviens sur ce qu'a dit Michel au début, c'est j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, les médecins choisissent leurs patients. Alors, il n'a pas tout à fait tort, mais ma réponse ne va pas forcément correspondre à ce qu'il pense. C'est qu'aujourd'hui, sur un territoire, je fais partie des 151 zones rouges définies par M. Bayrou, zone d'intervention prioritaire, c'est un désert médical. On choisit en effet les patients, mais tous ces patients, on prend ceux qui ont le plus besoin, tous ceux qui sont polypathologiques, qui sont en ALD. C'est ces patients-là qu'on priorise qu'on prend comme médecin traitant.
J'ai aucun doute sur le fait que, et je sais aussi qu'il y a des médecins, malgré la grève, qui aussi ont pris leurs urgences, les patients qui en avaient besoin, etc. Mais Lamine Garbi, moi je voudrais savoir comment vous vous gardez de ne pas se retrouver avec des dialogues comme avec celui de Michel, c'est-à-dire qu'on va se retrouver dans une confrontation entre médecins libéraux et patients pour expliquer réellement pourquoi vous êtes en difficulté.
Il n'y a pas de confrontation sur le dossier médical partagé, les cliniques hôpitaux privés, on envoie la lettre de sortie, le contrôle opératoire pour tous les séjours.
De toute façon, le DMP, il n'est plus dans il n'était plus dans la revendication.
Oui, mais il a été de revenir. Oui, exactement. Il reste de revenir parce
alors,
que
voilà.
C'était
un problème technique. Encore faut-il que nos concitoyens ouvrent leur dossier, qu'ils fassent acte d'ouvrir, parce que sinon, on envoie pour rien. Non, je ne pense pas qu'il y ait une guerre entre le patient et les médecins.
Je ne dirais pas une guerre, je voudrais qu'il y ait une compréhension mutuelle.
Non, parce qu'on a tellement besoin aujourd'hui de soins, tellement besoin de compétences qu'on est content d'avoir un médecin. Donc c'est vrai que le choix se raréfie. Maintenant, lorsqu'on choisit un chirurgien, on a quand même un peu plus de choix sur telle ou telle spécialité. On arrive quand même, tant dans le public que dans le privé, à avoir une réponse. Et puis on voit un chirurgien une à deux fois dans sa vie. Donc je ne suis pas forcément choqué qu'il y ait un complément d'honoraires une à deux fois dans sa vie, parce que la santé en France, c'est un des restes à charge les plus faibles d'Europe.
Non, ça c'est pas vrai.
Les plus faibles d'Europe. Aller aux États-Unis, alors si on parle des États-Unis,
c'est... Oui, mais c'est trop facile. Mais ça, c'est trop facile. Il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a rien aux États-Unis. Ça ne peut pas fonctionner. En tout cas, pas comme ça. Nathalie Coutinho, on retourne.
Il y a un vrai problème sur ce reste à charge, parce qu'il n'intègre pas les cotisations aux complémentaires santé. Et donc, du coup, c'est un faux reste à charge. Il faudrait intégrer dans le reste à charge ce que nous payons tous pour nos complémentaires, nos mutuelles, etc. Donc, et si on intègre ça, on n'a plus le reste à charge le plus faible du monde.
Bien sûr, mais
donc,
si vous
voulez... Non, mais il faut arrêter avec ce reste à charge, parce que c'est un peu le discours.
Non, mais je suis d'accord avec vous, mais si vous voulez, les chirurgiens aujourd'hui en secteur 1 ne peuvent pas fonctionner. Les tarifs n'ont pas été réévalués depuis 25 ou 30 ans. Ils ne peuvent pas rémunérer leur aide opératoire, leur secrétariat, leur cabinet. C'est pas possible.
Mais j'ai pas
Le compte n'y est pas. Donc, le secteur 2 est obligatoire aujourd'hui. Obligatoire. Ils ne peuvent pas fonctionner. Je parle des plateaux techniques lourds, des chirurgiens qui ont des investissements aussi en matériel. Vous parlez des radiologues, de la rente des radiologues, abominable ce terme, mais quand même, qui investit dans les scanners?
Je vous ai parlé des revenus des radiologues, et les revenus, oui, ils sont déduits des investissements.
Oui.
Donc attention,
oui, mais avec ces revenus, ils doivent financer l'achat et l'acquisition du matériel. C'est un chiffre d'affaires.
On est d'accord pour dire qu'il y a quand même une vraie différence. Vous avez parlé des pédiatres tout à l'heure, entre certains spécialistes et d'autres, il y a vraiment une vraie différence, et cette différence, Luc Duquesnel, elle se retrouve aussi chez les patients. On est aussi dans une médecine qui peut être une médecine, donc, comme on dit, à deux vitesses. Tous les salariés ont une mutuelle le plus souvent obligatoire, mais enfin, c'est absolument pas le cas de tout le monde. Donc, ça veut dire que quand on peut pas se payer le secteur 2 parce qu'on n'a pas de mutuelle pour faire la différence, on est aussi, pour ce qui est des patients, dans une médecine à deux vitesses. Ça existe, ça.
Oui, alors, d'abord, on l'a dit, et c'était le cas de la première intervenante qui est rhumatologue, qui était en secteur 1. Il y a aussi beaucoup de spécialistes qui sont en secteur 1. Il y a deux types de secteur 2. Il y a un secteur 2, ce qu'on appelle OPTAM, et qui, où normalement, les dépassements d'honoraires sont remboursés par les complémentaires santé. Et puis après, en effet, on ne va pas nier qu'il y a une frange, mais c'est une frange de médecins qui, très clairement, qui ont des dépassements qui sont un peu hors sol, et c'est là-dessus qu'on doit travailler avec la ministre et avec la Caisse nationale d'assurance maladie, parce que, très clairement, il y a des choses qui ne sont pas inadmissibles, d'ailleurs, aussi bien en ville qu'à l'hôpital. Il y a aussi plein de dépassements d'honoraires qui ont lieu aussi à l'hôpital avec des dépassements qui sont absolument qui sont pas justifiés aujourd'hui.
C'est les consultations privées, ça, attention. C'est les consultations privées à l'hôpital.
Attendez, excusez-moi, il faut vraiment qu'on retourne au standard, parce que si on ne va pas au standard, ça ne s'appelle plus le téléphone sonne. Régis est là, bonsoir Régis.
Oui, bonsoir.
Je vous ai fait attendre longtemps, Régis, pardon.
Non, pas de souci. Non, je vous appelais parce que moi, je suis un petit peu en colère. À chaque fois qu'on a un sujet sur les médecins, que ce soit les déserts médicaux ou comme ce soir, et à chaque fois que la moindre nouvelle contrainte ou le moindre nouveau contrôle est mis sur la table, on entend la durée des études et des longues études qui ont été faites. Moi, je voulais quand même rappeler que faire des études, déjà, c'est une chance. Et que quand les études sont longues, c'est grâce aussi à tous les Français qui paye toutes ses études, donc il faut pas oublier ça. Donc beaucoup d'études, on doit des années à l'État, que ce soit les polytechniciens, que ce soit les énarques, que ce soit les normaliens, même dans les écoles les plus prestigieuses, il y a des contraintes, et à chaque fois qu'on a ce débat sur les médecins, on entend cet argument sur les longues études qui justifieraient aucune contrainte. Voilà, donc moi c'était un petit peu cette colère que j'ai eue en entendant le premier coup de téléphone, et que je voulais partager dans votre émission, et que c'est un argument qui ne tient pas, parce que voilà, c'est grâce aux Français qu'ils ont pu faire des études, et c'est grâce aux Français aussi qui travaillent tout au long de l'année.
Régis, merci beaucoup pour votre remarque. Je reviens effectivement à cette première auditrice qu'on a eue tout à l'heure, dont on entendait vraiment les arguments. Je le disais tout à l'heure, attention à ne pas se retrouver avec patient contre médecin, parce que vous allez finir entre deux mondes qui ne se comprennent pas, en fait. Est-ce qu'il y a ce risque, d'ailleurs, je vais demander à la partie neutre, Nathalie Coutinet, madame l'économiste, est-ce qu'il y a ce risque, au fond, que le patient ne sait plus aujourd'hui comment fonctionne la médecine, n'a probablement aucune idée de ce que ça coûte pour un spécialiste, pas plus qu'il ne sait à quoi sert l'argent de son dépassement, etc. Est-ce que ces deux mondes se connaissent?
Ah oui, bien sûr, et puis c'est même déjà très compliqué de savoir qu'on est remboursé une partie par la sécurité sociale, une partie pour les complémentaires quand on a une complémentaire, etc. Effectivement, il y a deux mondes qui sont un peu en opposition. Les patients, et un de vos intervenants avait tout à fait raison, c'est vrai qu'il y a tellement plus peu de médecins que aussi les médecins jouent maintenant de cette rarification des médecins pour essayer d'obtenir plus de choses en disant on est devenu indispensable. C'est vrai qu'on manque de médecins et que du coup, le patient que nous sommes, nous en tout cas pour la plupart d'entre nous, sommes en difficulté et ont du mal à comprendre des exigences de profession qui sont mieux rémunérées rémunérés que la moyenne, hein, y compris de la moyenne de gens qui ont fait autant d'études qu'eux. C'est quelqu'un, si vous avez cité au début les enseignants à l'université, ils gagnent beaucoup moins qu'un médecin et ils font des études de la même longueur. Donc il y a effectivement peut-être des sentiments d'incompréhension qui peuvent venir.
Après, pardonnez-moi, il y a, on l'a dit tout à l'heure, les dépenses de santé ne vont pas baisser, ça on en est absolument certain. Donc est-ce que c'est pas là, au fond, qu'il faut appuyer le plus lourdement? Est-ce que ça veut dire qu'il faudra appuyer sur les recettes? Est-ce que c'est ça que vous demandez en disant vous êtes gentil, mais nous, effectivement, on est à l'os et de fait, les dépenses, c'est nous. Taper sur les recettes. Est-ce que ça fait partie du discours que vous portez
qu'il faille taper sur les recettes. Avant Covid, on était à 200 milliards à peu près d'euros pour les dépenses de santé, la ville et l'hôpital. Aujourd'hui, on est à 260 milliards et tout le monde se plaint. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on se pose de bonnes questions sur le fonctionnement ville-hôpital, c'est-à-dire la relation entre la médecine de ville et le monde hospitalier public et privé, et qu'on essaie de trouver des vecteurs d'efficience, de pertinence et d'économie. Parce qu'on ne peut pas continuer à augmenter les dépenses alors qu'on sait que quelquefois il y a des pertes en ligne, il y a des dépenses inutiles. Donc la pertinence des soins, on parle beaucoup d'actes qui sont inutiles ou redondants. Je dirais le DMP en fait partie, c'est-à-dire qu'on puisse savoir exactement ce qui se passe. Et je pense que le manque de médecins aujourd'hui, les médecins ne s'en satisfont pas. Parce que le médecin généraliste qui n'arrive pas à trouver de spécialiste à qui confier son patient, qui n'arrive pas à avoir trouvé un IRM, un examen d'IRM, dans des délais qui soient relativement courts, tout le monde en souffre. Mmh. Personne ne se satisfait.
Bien sûr, et le
personne
spécialiste ne dit, voilà, pas de successeur.
C'était votre
de la
auditeur
même manière,
qui disait ils ont fait des études, ils doivent être reconnaissants à la nation. Oui, bien sûr, mais ils donnent tellement. Ils donnent tellement. Et puis il y a un mal-être chez les jeunes, il y a un suicide d'interne tous les 18 jours. Il y a quand même un malaise.
Ça, c'est l'hôpital.
L'hôpital, oui. Les
non, mais attendez, il ne faut pas tout mélanger.
Il ne faut pas tout mélanger.
Vous mélangez beaucoup
c'est
de
nouveau.
Choses, là.
Oui, mais c'est nouveau.
Moi, je peux vous dire que
des
jeunes qui veulent être médecins, à l'université, parce qu'on forme des médecins, il y en a beaucoup. Beaucoup des jeunes qui veulent être médecins.
Mais bien sûr, il y a 3 000 en première année qui veulent être médecins, et à la fin, il y a l'entonnoir à 250. C'est scandaleux.
Non, pas sur la France. Non,
ah, si,
pas,
si.
Non,
ben
non,
si,
non, c'est pas 250 médecins qui sont formés sur la France.
Non, par ville.
Ah
par
oui, d'accord.
Oui, non, par ville, oui. Bien sûr. Pas pour je parle du concours de première année. Et on recale des gamins, nos enfants, à 15 ou 16 de moyenne, après ils vont se former en Espagne ou dans les pays d'Europe. On a un problème d'attractivité et de logique. Mais
non, ce n'est pas un problème d'attractivité, ça. C'est un problème d'organisation des études de médecine.
Et
c'est
de
pas
blocage,
la même chose.
Oui, et de
Par
blocage.
Contre, moi, je suis d'accord avec ce que vous dites. À un moment donné, il faut effectivement se poser la question de l'augmentation des recettes, parce que les dépenses ont augmenté, mais les recettes n'ont pas augmenté, notamment parce qu'il y a beaucoup d'exonérations de charges sociales pour les entreprises. Ça a été pointé, d'ailleurs, par la Cour des comptes en mai dernier, qui recommande elle-même de réfléchir à ces exonérations et de trouver... d'augmenter les recettes de la sécurité sociale. Donc effectivement, il faut évidemment contrôler les dépenses, ça c'est une évidence et je ne vais pas aller contre, mais il faut aussi réfléchir du côté des recettes.
Est-ce que Luc Duquesnel, l'une des grandes craintes, c'est au fond que le système de médecine libérale tel qu'il existe chez nous soit en train doucement de disparaître et qu'on finisse, vous parlez de contrôle, vous parlez de tout ça tout à l'heure, qu'on finisse par salarier au fond les médecins, que ce système-là disparaisse, cette différenciation disparaisse. Est-ce que, pas demain, mais enfin, à terme, est-ce qu'on en prend le chemin?
C'est que ce soit plus attractif. La problématique avec le sujet de l'accès aux soins, aujourd'hui, les difficultés d'accès aux soins, c'est qu'on sait qu'un médecin généraliste libéral, je vais parler des médecins généralistes, prend en moyenne 1100 patients et médecin traitant de 1100 patients, c'est 700 quand on est médecin salarié dans un centre de santé. Donc aujourd'hui, si on avait pléthore de médecins, on pourrait se permettre ça. Si tous les médecins libéraux devenaient médecins salariés dans des centres de santé, l'accès aux soins ce serait beaucoup plus aggravé. Donc après, le problème, c'est quand on n'a plus envie. Quand je vois, moi, qu'aujourd'hui, il n'y a plus que 40% des médecins généralistes qui sont médecins traitants, je veux dire, ça veut dire que c'est plus attractif, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus envie de ça, ils n'ont pas envie d'être poursuivis par la caisse parce qu'ils font des arrêts de travail, parce qu'ils font des prescriptions de transport, parce que... bon, voilà, toutes ces choses-là. Le travail est déjà tellement difficile avec une population aussi qui souffre, et que aujourd'hui, se faire harceler par les caisses, pour autant, si vraiment il y a des fraudeurs, s'il y en a qui font des arrêts de travail parce que c'est l'ouverture l'ouverture de la pêche ou l'ouverture de la chasse, ça, il n'y a pas de souci.
Mais comment
ça
fait,
n'existe plus. Hein.
Mais comment on fait, du coup, pour contrôler, malgré tout, sans harceler, comme vous le dites, M. Duquesnel ? Est-ce que c'est possible, ça c'est,
nous, ça marcherait ou pas ? On est contrôlé aussi, sauf que nous, les contrôles, ils sont beaucoup plus rapides, les contrôles de facturation, et lorsqu'il y a un écart ou une anomalie, on corrige. Et il faudrait aussi que ça se passe de la même façon avec les médecins libéraux, et ne pas avoir, je dirais, de dramaturge sur le fait qu'ils sont forcément fraudeurs. C'est 1% la fraude, même pas 1%. Ouais. Et on parle que de ça. Donc moi, je préfère parler des 99%. Mmh. Et la médecine libérale, les cliniques sans la médecine libérale, ça ne fonctionne pas. Mmh. On réalise 35% de l'activité avec 17% des ressources. Les praticiens travaillent 60 à 70 heures par semaine. S'ils étaient salariés, ils seraient à 35 heures. Ça coûtera encore plus cher.
Nathalie Coutinet sur
la question. Oui, effectivement, il faut tenir compte du fait que les jeunes médecins, qui est une profession qui s'est aussi beaucoup féminisée, les jeunes médecins ne veulent plus d'un exercice à 70 heures par semaine. C'est une réalité. Ils veulent un exercice avec du temps, enfin, un meilleur arbitrage entre temps professionnel et temps personnel. Et que ça pose un problème parce qu'on n'a pas formé assez de médecins, mais on peut très bien envisager. Dans 10 ans, on aura passé le cap de cette pénurie de médecins. C'est 2035. Dans 10 ans, on peut tout à fait envisager que de plus en plus de médecins soient salariés. Ils ne sont pas salariés de l'État, ils sont salariés de groupes privés.
Non, mais voilà, mais est-ce que c'est là qu'on va, en fait ? Est-ce que c'est dans cette direction que la médecine française est en train d'aller pour dire les choses ?
C'est le souhait de beaucoup de jeunes médecins.
Il n'y a pas beaucoup de chirurgiens salariés par des grands groupes privés.
Non, je parlais des généralistes. Beaucoup de médecins généralistes sont salariés, souhaitent maintenant être salariés. C'est une tendance qu'on observe.
Je ne vais pas parler à la place du docteur Duquesnel, mais je ne vois pas de médecins généralistes salariés par des grands groupes.
Non. Aujourd'hui, c'est les centres de santé, c'est des centres communaux. Mais après, c'est tout simplement pour s'affranchir de tâches administratives, de poursuites par les caisses. Parce que quand vous êtes dans un centre de santé.
Mais est-ce que c'est vraiment pour ça ou est-ce que c'est aussi. Parce que j'entends vraiment ce que vous dites, mais si les jeunes hésitent à s'installer, s'ils se mettent en groupe, comme vous le dites, est-ce que c'est vraiment pour ne pas être poursuivi par les caisses ? Ou est-ce que c'est simplement parce que oui, c'est un travail qui est super difficile.
Non, mais c'est aussi,
et
c'est
que
aussi,
du coup,
exemple,
à plusieurs, c'est plus non, et qu'on n'a pas envie aujourd'hui d'être un médecin comme non, peut-être
moi, je suis médecin généraliste. Ce week-end, je vais être de garde de régulation pour la permanence de soins. Je suis médecin généraliste libéraux. Vous êtes médecin généraliste dans les centres de santé. Vous ne faites pas la permanence des soins. C'est les libéraux qui assurent les nuits, les week-ends, les gardes.
Non, mais c'est ce que je voulais dire.
La question
que je me pose, c'est est-ce que la raison pour laquelle, vous le disiez, les jeunes hésitent désormais, est-ce que c'est parce qu'ils vont être poursuivis par la Sécu ou est-ce que c'est simplement parce que la difficulté, c'est que ce travail est extrêmement difficile et qu'il y a aujourd'hui une pénurie. La vraie raison pour laquelle les jeunes hésitent, est-ce que c'est pas plutôt celle-là ?
Non seulement il est difficile, mais en plus de ça, il n'y a pas de reconnaissance. Se dire que pour les arrêts, on est considéré comme des fraudeurs, mais nous, on accompagne ces médecins, mais on voit des médecins qui sont contrôlés par la caisse, qui sont en pleurs, qui sont traumatisés par ça, qui après un contrôle par rapport à leurs arrêts de travail, déplaquent. Arrête. Donc, je crois qu'aussi, ce qu'on a besoin, c'est de reconnaissance. Parce qu'aujourd'hui, on l'a dit, pour les problèmes d'accès aux soins, le métier est de plus en plus difficile. Et puis, et que globalement, cette reconnaissance, on l'a pas. On a le sentiment de donner de plus en plus. Et finalement, de se faire matraquer, de se faire harceler par les caisses.
Et puis le travail en équipe, c'est quand même l'avenir. Le médecin seul n'existe plus. Il doit travailler, je dirais, avec des infirmières, des kinés, un laboratoire, une radiologie.
Infirmières en pratique avancée.
Donc, si vous voulez, c'est la logique. Et puis c'est pas la féminisation, madame, qui rend la pratique difficile. C'est que l'ensemble...
J'ai pas dit que la féminisation rendait la pratique difficile. Ça,
désolée. Vous avez parlé de la réduction. Vous avez parlé de la réduction de temps de travail. Parce que les garçons et les filles ont envie de travailler autrement. C'est clair.
C'est aussi ça se féminiser, mais je vais pas dire que c'est parce qu'il y a des filles.
J'ai eu peur de ça.
C'est ce que je disais, travailler autrement, donc c'est travailler mieux, travailler moins, avoir moins de contraintes. Je l'entends, je suis un peu étonné que ce soit parce que la Sécu est derrière que les gens ne veulent pas s'installer aujourd'hui.
C'est un des éléments, mais c'est aussi accompagner les médecins libéraux, entre autres les médecins généralistes libéraux, à se réorganiser. Moi, je travaillais avec, on a trois infirmières en pratique avancée. Je travaille avec une infirmière comme assistante médicale sur deux cabinets médicaux, mais je veux dire, ça pose des problèmes immobiliers, ça double ma surface et tout. C'est les accompagner dans ces nouvelles organisations professionnelles.
Voici Manon qui nous attend et qui est à Marseille. Bonsoir Manon.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Merci de me prendre à l'antenne. Moi, je voulais présenter un petit peu mon métier parce que je suis médiatrice en santé à Marseille dans une équipe qui travaille dans le centre-ville pour aller vers les gens et les ramener vers le soin. Donc on est un petit peu un trait d'union, nous les médiateurs en santé, entre les blouses blanches et la population. et on a notamment des missions de prévention avec un financement de l'ARS notamment pour parler des dépistages des cancers aux âges clés de la vie, sein, côlon, col de l'utérus notamment, également aider les personnes à trouver un médecin généraliste. Et le but de la médiation en santé, c'est de réduire les inégalités sociales de santé, pour faire simple. Et on trouve que c'est un métier qui tend à se développer et que c'est bien si les médecins généralistes aussi nous connaissent et savent se saisir de nous. Mmh. Et inversement, que les gens sachent se saisir de nous au quotidien pour qu'on les aide dans les parcours de soins et qu'on autonomise.
Merci beaucoup Manon. Saisissez-vous des Manon, Luc Duquesnel. Je suis sûre que vous le faites déjà. Il y a un mot qu'elle a prononcé, Manon, qui me semble intéressant aussi, c'est le mot prévention.
Tout à fait.
Plus de médecine de prévention. Une meilleure médecine de prévention, ça veut dire évidemment que les dépenses de santé descendent. Est-ce que c'est aussi automatique que ça, d'ailleurs?
Alors, c'est pas immédiat, Nathalie Coutinet, évidemment. Oui, mais oui. C'est sûr que la France est vraiment, alors là, le mouton noir de la prévention dans tous les domaines. Depuis des années, c'est dit, hein, les médecins et tous les observateurs le disent, et qu'effectivement, quand on fait de la prévention, alors ça, c'est une dépense aujourd'hui, mais qui fera moins de dépenses plus tard. C'est une sorte d'investissement d'une certaine manière dans la santé, et ça, c'est vraiment quelque chose qui manque en France de manière très importante, et notamment en santé, mais aussi en dentaire, par exemple.
Est-ce que ça veut...
Commençons par se vacciner, déjà.
Oui, bah alors par exemple, si vous voulez, mais est-ce que ça veut dire aussi qu'il faudrait être plus qu'incitatif, en fait, sur la prévention, qu'il y ait plus d'obligations même qu'il y en a aujourd'hui, finalement.
Bien sûr, il y a des tests de dépistage. Tests de dépistage, cancer du sein, cancer du côlon.
Les patients sont les premiers concernés là-dessus.
On le voit pour la vaccination, le nombre de personnes, je veux dire, un taux de vaccination qui ne cesse de diminuer. On voit, je ne sais plus, l'an dernier, je crois que c'est 17 000 morts. On verra combien c'est cet hiver. Des gens des gens fragiles en plus de ça, qui vont dans les hôpitaux. Tout ça, c'est un coût. C'est aussi des gens qui sont en souffrance. Mais il est vrai qu'on est un pays, par rapport aux pays nordiques, très clairement, la prévention, il n'y a pas de rémunération, la prévention. Je veux dire, aujourd'hui, on ne rémunère que le soin, que ce soit aussi bien à l'hôpital qu'en ville. Il n'y a que le soin. On n'est rémunéré que pour faire soigner des gens malades. On n'est pas rémunéré pour avoir des actions de prévention. Et la prévention, ça ne concerne pas que les médecins, mais les autres professionnels de santé, mais aussi, très clairement, les collectivités locales, ça concerne tout le monde. C'est l'alimentation, c'est toutes ces choses-là.
Et à charge des patients que nous sommes d'être meilleurs sur notre propre prévention, évidemment, et dans ces cas-là, à chacun, encore une fois, de balayer devant sa propre porte. Je vous remercie pour ce débat toujours passionnant dès qu'on parle de médecine. Merci beaucoup, merci à tous pour vos nombreuses questions. La dernière, c'est celle de Gaston, il a 7 ans, c'est la question des petits bateaux.